I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Pierre Gerber et bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, c'était il y a 9 ans en République dominicaine. On s'était joué, je l'avais battu, en double en plus. 9 ans plus tard, c'est lui le vainqueur de Grand Chelem et moi qui vais lui poser des questions. Comme quoi la vérité d'un jour peut être le mensonge du lendemain en tennis. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Salut Pierre Gerber.
Salut Antoine.
On se voit, on se tutoie.
On se tutoie, bien sûr.
J'ai le plaisir d'être à Mittelholzbergen. Tu nous accueilles à Mittelholzbergen, qui, tu me l'as dit en allemand, veut dire la maison au milieu de la montagne. Je trouve ça très joli, pour commencer. Nous sommes à quelques jours après ton élimination à Metz. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va?
Bah écoute, ça va plutôt correctement, à part que malheureusement, en tournoi de Metz, je me suis un peu fait mal à la cuisse. Et donc, j'ai dû reporter un petit peu mon départ en Asie. Donc, après des examens qui n'ont pas forcément été géniaux. Mais bon, ça me permet de passer peut-être un petit peu de temps avec la famille. Il va falloir un petit peu de rééducation. Et j'espère que je repartirai avec encore plus d'énergie pour la tournée asiatique. Enfin, pour la fin de la tournée asiatique, parce que je vais manquer une grande partie.
Tu nous reçois dans le village où tu as grandi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es devenu ce que tu as rêvé plus jeune? Est-ce que ton rêve ressemblait à ta réalité d'aujourd'hui, en fait?
Alors, c'est difficile parce que je pense que le rêve, il évolue en fonction de l'âge qu'on a. Mais on peut dire que oui, je m'en rapproche en tout cas. Parce que j'ai grandi dans une famille tennis. Mon père était prof, ma mère était prof de tennis. Ma sœur a joué à un très bon niveau. Voilà, j'ai mon petit frère aussi qui a joué. Et moi, j'ai été mordu de ce sport-là et j'ai toujours rêvé d'en faire mon métier. Voilà, mon rêve à moi, c'était de jouer sur le plus grand court du monde. Voilà, pour des matchs à haute pression. Et c'est des choses que j'ai réussi à réaliser dans ma carrière pour l'instant. Et j'espère que je continuerai à le faire dans le suite de ma carrière.
Mais quand tu étais petit, parce que par exemple, moi, quand on me posait la question, je disais, quand tu es petit, tu dis, bah, j'ai envie de devenir numéro un mondial. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu disais?
Pas forcément.
OK.
Pas forcément. C'était plus quelque chose que disait mon père. On va dire que ça a été un objectif qu'on a essayé d'atteindre ensemble. Mais on va dire que la phrase « j'ai envie d'être numéro un mondial », c'était pas forcément quelque chose que j'assumais vraiment. Par contre, mon père l'assumait vraiment pour moi. Et moi, c'est comme j'ai dit un petit peu avant, c'était plus le côté spectacle, le côté ambiance de dingue. Moi, quand je voyais Roland Garros, quand je voyais les ambiances, j'ai grandi en regardant beaucoup à la télé les meilleurs joueurs du monde, et c'est surtout ce côté-là qui m'a donné envie. Et c'est des choses que effectivement j'ai pu vivre, par exemple en Coupe Davis, sur des finales à Lille avec des ambiances de malade. Et donc là, pour le coup, j'ai vraiment réalisé mon rêve.
Ou comme cette année aussi peut-être à Roland-Garros sur le Suzanne Lenglen, même si c'est une défaite contre Benoît Paire, mais c'est aussi une ambiance qui se rapproche de ça.
Complètement, complètement. Et c'est pour ça, c'est pour cette espèce de sensation avant de rentrer sur le terrain. Et voilà, ces fourmillements dans le ventre, cette pression, même avant, on va dire un jour avant, la veille, avant de se coucher, pas arriver à dormir. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours et que je me suis autant entraîné. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu gagner. Je me suis jamais dit, mon seul objectif, c'était d'être sur le terrain avec un public et juste de participer. Moi, l'objectif, c'est d'être sur le terrain avec tout ce monde et de sortir vainqueur, bien sûr. Mais j'ai jamais vraiment eu ce rêve et c'est pas aussi important pour moi d'être numéro un mondial. C'est peut-être pas forcément ce qui me motive le plus.
D'accord.
Tu as commencé à le mentionner quand je t'ai rencontré, moi, pour la première fois. C'était en 2010, dans un futur, dans un tournoi en République dominicaine.
Ouais.
Et tu étais entraîné par ton père déjà. Quel âge tu avais quand ton père décide de tout quitter pour se consacrer à ta formation ?
13 ans.
Ok.
Ouais.
Est-ce que tu as ressenti ça comme un poids ?
Complètement.
C'est vrai ?
Ouais, ça a été une... j'ai ressenti ça forcément
déjà
comme une pression.
Ans, tu te rendais compte ?
Oui, je me rendais un peu compte quand même, parce que on n'est pas forcément d'une famille aisée. On n'avait pas forcément les moyens. Je me rendais compte déjà avant que les fins de mois, on comptait déjà. On allait faire nos courses en Allemagne pour essayer d'économiser de l'argent.
Ouais.
Mon père était prof et ma mère, c'est grâce à ma mère qui a changé de métier et
d'accord.
qui est passée de prof de tennis à visiteuse médicale qu'on a pu vraiment, aussi voyager derrière parce qu'elle a eu un meilleur salaire et elle a apporté un peu la stabilité dans la famille. Et donc forcément, à 13 ans, quand mon père a arrêté de donner des cours et s'est complètement consacré à moi, est parti à la recherche aussi parce que c'était plus qu'un entraîneur, c'était aussi quelqu'un qui a fait en sorte qu'on puisse voyager, qu'on puisse aller sur les tournois tennis Europe en 13-14 ans, parce que pour lui, sa vision, c'était qu'il fallait passer par là, par le voyage, apprendre un petit peu le métier en voyageant, en sachant si on allait être capable de bien jouer aussi en Croatie, parce que j'avais pas forcément tant voyagé que ça, même si j'avais un peu voyagé avec les tournois 11-12 ans. Et il a tout de suite eu cette vision un petit peu à long terme, en se disant, j'ai déjà envie de voir si ça lui plaît, le fait de voyager, de partir en tournée et de vivre un petit peu la vie de joueur de tennis professionnel, mais à 13-14 ans sur les petits tournois.
Ouais, donc déjà, à 13-14 ans, pour aller où vous vouliez, il fallait déjà aller quelque part, quoi. La notion de voyage était importante.
La notion de voyage et d'apprendre d'une certaine manière le métier était très importante. Et voir vraiment à 13-14 ans déjà si ça me plaisait de voyager, si ça me plaisait. Après, il y a eu plein de péripéties. Hein. Je me rappelle que le premier voyage qu'on avait fait, on était parti donc finalement en Croatie, à Umag, là où il joue l'ATP 250. Et on s'était retrouvé... on voulait faire des économies. Donc on s'était dit, on avait amené la tente.
Ouais.
On est allé dans un camping. Et on avait essayé d'installer la tente, alors en pleine nuit avec les phares de la voiture, parce que forcément dans la nuit il n'y avait pas forcément de lumière. Et au final, après cette semaine-là ou même après cette première nuit, mon père il a dit ok, on va essayer de faire des économies en voyageant, mais s'il n'est pas capable d'être en forme le lendemain pour son match, ça sert à rien. Donc on va quand même toujours investir pour que il dorme dans une chambre d'hôtel, dans un lit et qu'il soit quand même en forme pour le lendemain, parce que j'avais quasiment pas dormi et que je m'étais retrouvé avec limite les yeux collés sur le terrain et ça n'avait pas été monstrueux ma performance.
Tu dis que ton père, il cherchait justement pour avoir de l'argent, des financements. Est-ce qu'il a développé de la recherche de partenariats, d'aller chercher de l'argent chez des partenaires autres que des sponsors autres que ta mère qui reste à la maison et qui travaille, quoi?
Non, complètement. Alors, c'est là où, je le dis très souvent, mais sans mon père, je ne serais pas du tout, sans ma famille en général, mais spécialement, j'ai envie de dire mon père, parce qu'il a essayé de mettre en place quelque chose qui puisse me permettre de devenir joueur de tennis professionnel. Et pour ça, il faut de l'argent, nous, on n'en avait pas. Et il a eu cette idée de créer une association, mais une association à but non lucratif, qui permettrait d'avoir des financements, des mécènes qui m'aident dans ma carrière. Et il a monté ce projet-là, il a créé cette association, il a mis en place un système de communication même avec tous les gens qui nous aidaient. Ouais. Il est allé à la recherche, il allait chercher aussi les gens.
Il a innové. Très innovateur dans le tennis, quoi.
Complètement innovateur et il nous a donné les moyens, alors pas non plus des moyens
bien sûr
incroyables, mais il nous a donné les moyens, avec l'aide de tous les mécènes en Alsace qui ont participé à ce projet, de voyager et de me laisser une chance de devenir joueur de tennis professionnel. Et c'est sûr que comme tu dis, c'était innovateur. Alors au départ, c'est vrai qu'à 13 ans, il passait peut-être plus pour un fou qu'autre chose.
Ouais.
Parce qu'avec en plus c'était une période où j'étais peut-être pas forcément le meilleur de ma catégorie. Mais en faisant ça, voilà, il a, on va dire, il a été, ouais.
Un peu visionnaire.
Visionnaire d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que quand on imagine le chemin parcouru et d'où est-ce qu'on est parti, c'est sûr que c'est assez incroyable ce qu'on a réussi à réaliser ensemble.
Comment tu qualifierais la relation d'un père et d'un fils qui ont eu en même temps une relation d'entraîneur-entraîné? C'est peut-être pas facile de gérer les deux.
Ouais, c'est très spécial. On a passé 10 ans de ma vie entre 13 et 23 ans à voyager ensemble. On a passé notre vie ensemble et forcément c'est une relation particulière parce que à la fois c'est mon père mais à la fois c'est mon entraîneur. Donc à quel moment c'est mon père, à quel moment c'est mon entraîneur? Quand c'est mon entraîneur, les sentiments ils doivent pas forcément être là, mais quand c'est mon père, enfin voilà, à quel moment est-ce qu'on switch? Et c'est sûr que c'est une relation particulière. En plus, moi j'ai forcément évolué entre 13 et 23 ans. L'adolescence c'est pas forcément la période la plus facile. C'est pas forcément la période où on a forcément envie de voir son père aussi tous les jours. Alors moi j'en ai eu de la chance. C'est arrivé vraiment beaucoup plus tard. On va dire que pour le coup j'ai limite vécu mon adolescence vers. J'étais pas forcément en avance de ce côté-là. Donc je l'ai vécu vers 19, 20, 21, 22 ans. Jusqu'au moment où vraiment ça fonctionnait plus, à un moment on n'arrivait plus à voyager ensemble, mais voilà, c'est une relation particulière. Et même dans toute la famille, ça a été quand on parle de mon père, mais ça a été un projet complètement familial, parce que ma mère qui restait et qui travaillait, elle avait quasiment la même implication, voire exactement la même implication mais différente de mon père qui voyageait avec moi, et c'était tout aussi dur pour elle que pour lui. J'ai mon frère, d'une certaine manière, à chaque fois que je partais en tournoi, je lui enlevais son père pendant un mois, il voyait plus son père. Ma sœur aussi, qui elle, entrait dans la vie active à ce moment-là, elle pouvait pas forcément compter sur son père de ce côté-là aussi. Donc ça, c'est là où je dis que c'est un vrai projet familial, parce que si à un moment mon frère, par exemple, avait ressenti le besoin de, ou avait fait des caca nerveux quand je partais, ou etc., ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué. Et ça a jamais été le cas. Ils m'ont, tout de suite soutenu. Le fait qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'attention sur moi, il n'y a jamais eu d'excès de jalousie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup souvent de mon père, mais j'ai envie de dire que c'est quand même sans toute ma famille, sans l'équilibre qui était, sans cet équilibre-là, je pense que j'aurais jamais réussi à être joueur de tennis professionnel.
Tu avais une lucidité sur le fait que, la lumière de la famille, entre guillemets, elle était sur toi et que autour de toi, il faisait les efforts nécessaires pour l'accepter.
Ouais, après, ça a été assez naturel, mais c'est vrai que je reconnais aujourd'hui, que effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup moi qui suis dans la lumière. Mais sans eux, je serais pas là où.
Ça
n'aurait pas été possible. Si j'avais eu un frère colérique, qui avait besoin de plus d'attention, il a réussi à faire sa vie sans son papa, d'une certaine manière, à certains moments, et il s'est jamais plaint, Et au contraire, il a souvent été un soutien, il m'a toujours encouragé. Je sais que c'est lui, par exemple, parce que je suis pas trop du matin, mais c'est une petite anecdote, mais on partait en Allemagne à l'école, donc on se levait hyper tôt.
Il faut savoir que tu as fait ta scolarité en Allemagne.
C'est ça.
Dans une vraie école allemande, et tu parles couramment aujourd'hui allemand, bien sûr.
Exactement. Mais à chaque fois que je partais en cours en Allemagne, on partait, je pense, à 6h40. Donc forcément, moi, je suis pas du matin, je me levais à 6h35. Mon frère, lui, était levé à 6h et c'était lui quasiment tous les matins qui me préparait mon sandwich. Alors, c'est peut-être une bêtise, mais quotidiennement, d'une certaine manière, il apportait son aide aussi. Et ça, sans compter. Et c'est pour ça que c'est une belle histoire de famille.
Le tennis, tu dis à 13 ans, tu es parti avec ton père, ça. C'est devenu quelque chose de sérieux tout de suite. À 13 ans, tu savais.
On va dire que jusqu'à mes 13 ans, c'était sérieux, on s'entraînait, etc. Mais je ressentais pas ce côté de pression vraiment. Je jouais au tennis, j'étais heureux sur un terrain de tennis. Alors j'étais un vrai compétiteur, je voulais gagner, etc. Mais une fois que mon père a quand même arrêté de travailler et s'est consacré à moi, ça a rajouté une pression supplémentaire au projet en lui-même. Je l'ai ressenti forcément sur le terrain. En plus, ça a été une période qui a été extrêmement difficile parce que j'ai grandi très tardivement. Ouais. Donc, à cet âge-là, vers 13 ans, en fonction du, voilà,
t'as une puberté
de l'horloge biologique,
tardive,
on va dire.
Bien sûr.
On gagne plus ou moins de matchs ou pas. Moi, c'est sûr que là, ça a été une période, l'année où il a arrêté de travailler, j'ai quasiment plus gagné un match en simple.
D'accord.
Ça a été une période difficile, mais voilà, ça m'a pas empêché d'aller sur le terrain, de suivre un petit peu la ligne directrice que voulait me donner mon père et de bosser et de faire des progrès à ce moment-là. Mais c'est sûr que c'est à ce moment-là, vraiment à 13 ans, que j'ai commencé à comprendre qu'il pouvait aussi y avoir, d'autres aspects que juste jouer au tennis. Il y a, des fois, c'était plus important que ça.
Tes modèles, c'était qui?
J'ai grandi. Alors forcément, j'étais fan de beaucoup de joueurs, mais je sais que Gustavo Kuerten qui gagne Roland Garros, ça m'avait énormément inspiré. Moi, j'étais un grand fan de Guillermo Coria.
Ok.
En grandissant, alors je sais pas ce que j'aimais autant, mais j'adorais son jeu parce que c'était quelqu'un qui jouait pas forcément en force.
Oui.
Il était plutôt frêle. Alors peut-être que c'était une certaine manière aussi de me comparer à lui parce qu'à 13 ans,
t'avais aussi ce...
je manquais de puissance et pourtant avec ce manque de puissance, il arrivait à rendre chèvre des joueurs peut-être plus puissants physiquement que lui. Et je me rappelle que j'étais allé voir un match de lui sur le court numéro 1 à Roland Garros en entrant avec les contre-marques alors que j'avais pas les tickets, mais j'avais les yeux, c'est d'un gamin complètement fan de lui. Il avait battu Davidenko au premier tour de Roland-Garros, en 3-7, il me semble. Et ça avait été, donc lui, c'était vraiment j'étais terriblement fan de lui. Après, j'étais fan aussi de Pete Sampras, Roger Federer, mais celui où vraiment je suis allé le plus haut, je pense, c'est Guillermo Coria.
Okay.
Et c'est assez étonnant parce qu'il n'y a rien à voir avec mon jeu d'aujourd'hui.
T'as mentionné un petit peu plus tôt, le côté financier des choses. Comment tu as géré ce passage de « je n'ai pas beaucoup d'argent » à « je suis un homme aujourd'hui qui gagne très bien sa vie » ?
Ouais, c'est vrai que c'est assez spécial, venant d'un milieu forcément pas très aisé.
Mm-hmm.
En tout cas, c'est sûr que on a des problèmes qu'on n'avait pas forcément avant.
Ouais.
C'est vrai que l'argent, alors ça amène des possibilités, mm-hmm. mais il y a des questions qu'on se pose, qu'on ne se posait pas forcément avant.
Comme quoi, par exemple?
Les vacances.
Ouais.
Jusqu'où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va dépenser? Quelle est vraiment la valeur de l'argent? Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis pas du tout au même seuil. L'argent, je la vois différemment, mm-hmm. forcément. Ouais, c'est sûr qu'au début, fallait mettre de côté beaucoup. Hein.
Ok.
Fallait mettre beaucoup de côté. J'étais très peu dépensier. Et c'est sûr quand j'ai commencé vraiment à continuer à gagner une, deux années, trois années, plutôt pas mal d'argent, j'ai commencé à vraiment comprendre que, avec cet argent, on pouvait des fois se faire plaisir, faire plaisir aux autres, surtout.
Ouais.
Et c'est vrai que, par exemple, il y a 2-3 ans, j'avais invité tous mes amis à venir en vacances en Corse, mm-hmm. et grâce à un peu tous les efforts que j'ai fournis, sur une semaine de vacances, j'ai réussi à en profiter avec des amis à moi, en finançant peut-être la maison et en les aidant à passer un moment privilégié dans des endroits sympas. La Corse, c'est magnifique. Donc c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais effectivement j'ai pas eu forcément cette formation là. Mais bon, c'est des bons problèmes à avoir.
En fait, c'est une question que je pose à tous mes invités, c'est quelle est ta rage? Où est-ce que tu puisses cette rage pour vivre cette vie?
Je dirais pas que l'argent est ma première motivation.
Mm-hmm.
Vraiment, pour le coup, je pense que ça a été un peu... ça a souvent été secondaire. Alors, c'est certain que ça fait extrêmement plaisir à un moment, et notamment, je me rappelle la première fois quand avec Nico, on fait finale en Australie, à l'Australian Open en 2015, je me dis, c'est un vrai plus. Avec ça, et ça va me permettre de financer la suite de
Bien
ma
sûr.
Carrière aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sécurisant de se dire qu'aujourd'hui, C'est pas comme quand j'avais 13 ans et que on terminait, on n'avait pas forcément d'argent. Vraiment, là, il y avait un côté de confort. Et c'est vrai que l'argent amène un certain confort. Et mais ça n'a pas vraiment été ma motivation première. Moi, je sais que ce que je disais au départ, le fait d'avoir ce rêve-là un peu plus loin, de jouer sur les plus grands cours.
Ouais.
Après, c'est vrai que j'ai plutôt eu la compétition facile, on va dire.
C'est exactement de ça dont je veux parler. C'est quelque chose d'inné, ce côté compétitif, d'aimer le match, d'aimer la confrontation avec un adversaire.
En grandissant, il y avait une grosse différence avec mon frère. On a 15 mois de différence, mais c'est vrai que lui sortait d'un match, il se rappelait plutôt du coup qu'il avait joué à 2-1, coup entre les jambes ou je sais pas quoi, alors qu'il avait pris 6-2, 6-2 par exemple. Mais d'accord. Il sortait, il était content. Oh, j'ai fait un coup de dingue. Alors que moi, ça a toujours été la victoire qui primait. J'essayais de mettre en place des choses sur le terrain pour gagner au final. Et dans tout, je suis quelqu'un qui veut gagner. En tout cas, en grandissant, j'avais ça. Et je sais plus où est-ce que j'en suis, mais en gros, non, je dirais que après moi, ce qui me transcende et ce qui m'a toujours transcendé, souvent, c'est ce côté équipe.
Okay.
Vraiment se défoncer pour son partenaire. J'ai joué au foot jusqu'à mes 14 ans.
D'accord.
J'ai adoré ce côté ambiance, esprit d'équipe. On donne tout pour son partenaire. Mmh. Et j'ai toujours eu une meilleure capacité à me défoncer pour mon équipe.
Ouais.
Que ce soit en match par équipe, qu'en grandissant dans les clubs ou même en Coupe Davis.
Ouais.
Souvent, j'arrive à faire ressortir des meilleures choses pour mes partenaires que pour moi-même tout seul. Et c'est certain que aujourd'hui on peut avec l'équipe quoi avec qui on voyage au quotidien le fait peut-être ce qui me motivait c'était peut-être aussi de voir que ma famille était derrière moi pour eux je me devais de me donner à 100% et me donner une chance de gagner et de réussir.
C'est peut-être aussi pour ça et grâce à cette rage c'est peut-être ce qui t'a notamment permis d'avoir énormément de succès en double. Je veux juste rappeler ton palmarès en double avec Nicolas Mahut. Tu as gagné les 4 tournois du Grand Chelem. Tu as fait ce qu'on appelle le Grand Chelem en carrière. Vous avez aussi gagné 6 Masters 1000. Tu as gagné la Coupe Davis. Quelle importance a eu le double pour ta carrière en simple ?
C'est un peu l'histoire.
Et alors, d'ailleurs, est-ce que ça t'agace un petit peu qu'on te parle du double pour te parler du simple ?
Non, parce que c'est mon histoire, ça a toujours été comme ça. Et quand je te parlais avant de mes 13 ans où je gagnais très peu de matchs en simple, et c'est le double qui m'a permis aussi de continuer à m'entraîner parce que j'arrivais sur les tournois 13-14 ans à gagner un tournoi par-ci peut-être, faire une demi-finale par-là alors que j'avais fait que des premiers tours en simple. Et c'est ce qui m'a toujours permis d'avoir un petit peu plus de peut-être de confiance ou d'énergie pour retourner au boulot le lendemain.
Mmh.
Et c'est vrai que j'ai toujours réalisé, j'ai toujours été meilleur en double qu'en simple. Mais aujourd'hui, sans double, je pense que je ne serais pas là où je suis en simple.
Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur votre relation avec Nico Mahut ?
Ouais, c'est difficile. C'est toujours difficile de mettre des mots sur des relations comme ça. C'est sûr que on a une histoire de malade quand même, quoi, parce que il m'a pris un peu sous son aile.
Comment ça a commencé,
fin 2014, je jouais bien en double, j'étais aux alentours de la centième place, entre 120, et je fais ce tournoi de double à Tokyo où je joue dans les qualifs avec Michal Przyjaźni, pas forcément un spécialiste. De double, un joueur de simple qui est aux alentours de la centième place, qui a été peut-être cinquantième ou un peu meilleur, mais pas forcément non plus un joueur de renom. Ouais. Et on s'inscrit, on est dernier rentrant dans les qualifs de ce tournoi. On perd au dernier tour des qualifs, on est lucky loser et on gagne finalement le double grâce au retrait de Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon,
okay.
Qui eux se retirent parce que Joe a mal au genou et on se retrouve à jouer les Brian sur le central de Tokyo. TP500. Alors, j'étais un bon joueur de double, mais là, on fait une semaine de dingue, on gagne le tournoi et je rentre dans les 100 à ce moment-là. Et c'est vrai que j'avais joué auparavant, j'avais joué deux fois Nicolas en finale d'un challenger. Alors, à l'époque, je jouais avec un autre Nicolas qui était Nicolas Renavant.
Mm-hmm.
On l'avait d'ailleurs battu deux fois en finale et il suivait ma carrière un petit peu près. Je pense que lui, c'était un moment où, c'est certain, il allait sûrement arrêter avec Michael Iliodra qui avait des problèmes de blessure au coude. Mm-hmm. Et il cherchait un nouveau partenaire. Et il a pris la décision de jouer avec moi à ce moment-là, alors que j'étais que 70e mondial, que j'avais rien réalisé, qu'il aurait pu jouer avec un joueur qui était 20e mondial, ouais. Le plus confirmé. Et c'est vrai qu'il a pris cette décision, il a pris ce risque-là, et il m'a dit, voilà, on joue ensemble cette année, moi je m'attends pas à ce qu'il y ait des résultats tout de suite, mais sur le long terme, je veux qu'on construise quelque chose de fort, et il m'a pris sous son aile à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Et au bout du deuxième ou troisième tournoi ensemble, on fait finale en Australie. Donc
ça commence bien.
Donc ça a très bien commencé effectivement. et on va dire que il m'a beaucoup appris quoi. Enfin, il m'a appris un petit peu le métier parce que c'est différent. Voilà, ouais. Sur le circuit principal, faut apprendre. Enfin, il y a plein de choses que j'ai appris à ce moment-là, des codes, mais aussi une façon de s'entraîner. Mm-hmm. Je pense qu'il m'a apporté beaucoup de choses dans ma carrière. Et en fait, moi, je lui ai apporté peut-être autre chose aussi, peut-être une fougue, une jeunesse, une autre vision, parce qu'on vient de milieux complètement différents et que je pense que avec Nicolas, c'est difficile de faire plus éloigné au niveau des personnalités, mais ces différences, on l'a amené sur le court avec une grande complicité et une équipe, et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui.
D'ailleurs, comment on gère un partenaire de double avec qui on a tant de succès? Est-ce que c'est comparable à un couple?
Complètement.
C'est vrai.
Je suis en couple avec Nicolas. Non, mais c'est complètement ça. Enfin, c'est, je pense que pour réaliser des grandes choses en général, alors là, pour le coup, on compare ça à un couple parce qu'on est deux sur le terrain. Ouais. Donc, alors les équipes, ils sont plusieurs, donc c'est bien sûr. Forcément un couple, mais c'est pareil. Il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait quelque chose. Et nous, pour réaliser de belles choses, il a fallu qu'on construise quelque chose, qu'on ait un vrai plaisir profond de jouer ensemble sur le terrain. Et voilà. Et bon, forcément, les victoires ont aidé à nous inciter à faire ça. Et c'est vrai qu'on a construit quelque chose d'assez fort.
Ouais, parce que les joueurs sont, on peut le dire, des petits monstres d'égoïsme quand même.
Bah, s'il faut, comment il faut l'être.
Ouais, mais comment ces deux égos cohabitent?
C'est effectivement, c'est le bel tennis. De base, c'est un sport individuel. Donc oui, arriver à. Alors, je pense que j'avais plutôt des prédispositions à être bon en équipe, mm-hmm. parce que comme je le dis, j'ai ce côté où.
C'est en toi.
Pour mon partenaire, je suis prêt à me déchirer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous a permis de réaliser de belles choses. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi chez Nicolas. C'est un fabuleux joueur d'équipe. Et cette chose qu'on a en commun nous a ralliés, alors que je pense qu'on est quand même des personnes très différentes et sur plein d'autres sujets. Enfin, on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais arriver à rassembler ça sur le terrain, c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à avoir les résultats qu'on a eus.
Justement, vos résultats, des grandes victoires. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que chaque grande victoire se ressemble ou est-ce que, par exemple, une victoire en Grand Chelem ressemble à une autre, puisque vous avez le luxe d'en avoir gagné plusieurs?
Non, pour être très honnête, toutes les victoires sont différentes. Et elles ont forcément une saveur particulière, mais une histoire aussi différente. Et en fait, c'est vrai que nous, notre relation, elle a évolué.
Alors,
c'est vrai que sur le début de relation, je vais dire de couple avec Nicolas, j'étais c'était vraiment le grand frère qui me prend sous son aile,
le jeune,
qui vraiment qui me conseille, etc. Et c'était le début de mon arrivée sur le circuit. Donc forcément, j'ai pas envie de dire sur le terrain un soldat, mais j'avais ce côté
je vois très bien.
C'était lui vraiment qui avait la direction en vue et moi je suivais. Et c'est vrai qu'en évoluant, j'ai commencé un petit peu peut-être à un peu plus m'affirmer, à vouloir en tout cas m'affirmer sur le circuit, à un petit peu plus exposer mes avis, à vouloir prendre un petit peu plus d'importance.
Des points de vue différents.
Et c'est vrai qu'on est passé d'une situation où on va dire c'était lui le chef, où on était deux chefs sur le terrain. Alors ça amène forcément dans l'évolution des soucis ou autres qu'il faut arriver à gérer. Et je trouve que ce qui fait notre force, c'est que même dans les moments les plus durs, on a réussi à rester soudés. Alors comme je pense que 90% des équipes
se séparent.
Et voilà. Et je pense que notre force, c'est peut-être une des plus grandes forces aussi de Nicolas, c'est ce côté aussi où on essaie de mettre les émotions de côté, sa fierté aussi un petit peu, et on essaie de travailler en équipe. Et je pense que c'est une de nos forces.
On l'a dit, vous avez quasiment tout gagné. Que vous reste-t-il ?
Non, mais après, c'est vrai que moi, sur ce début d'année, vraiment, j'avais coché énormément de cases en double.
Ouais.
Et est arrivée une période où je me suis dit, ben moi, j'ai des cases à cocher de mon côté dans ma carrière de simple. Et j'ai pris une décision, voilà, qui était difficile forcément pour Nicolas de sur une période mettre un petit peu plus l'accent sur le simple, mais là, il y a un objectif qui j'espère va nous rassembler. À moyen terme, qui sont les JO de Tokyo. Et c'est certain qu'on a vécu les JO de Rio très difficilement, et on rêverait d'effacer un petit peu ce mauvais souvenir et d'en créer un nouveau qui puisse être magnifique.
Tu en as parlé là, tu t'as dit sur cette année, t'avais envie de cocher des cases dans ta carrière en simple. On en a discuté et j'ai trouvé ça très intéressant. Tu as connu un beau début de saison où tu sentais que tu faisais des progrès. Et après, tu t'as senti comme, je crois que tu m'avais dit, j'ai senti une sorte de stagnation, d'état où j'arrête de progresser. Comment on vit ça ?
Alors, peut-être pas aussi. C'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, ce côté. Et c'est quelque chose qui est horrible, vraiment, parce que pendant un grand moment, ce côté où on stagne, j'ai peut-être même envie de dire quand on stagne, on régresse un petit peu. Mais ce côté-là, il est dur parce que c'est ce qui fait un petit peu c'est un peu notre carburant, on va dire. C'est ce qui nous donne envie de retourner sur le terrain tous les jours. C'est quand on sent qu'on progresse, que le boulot qu'on fait tous les jours, en fait, ça apporte quelque chose à notre tennis, à notre carrière. Et c'est ça qui nous permet d'y retourner aussi tous les jours. Et c'est vrai que c'est un sentiment, moi, que je déteste par-dessus tout. Parce que, voilà, ça me rend triste, dépressif de me dire que tous les matins, pour le coup, je pense qu'une de mes grandes qualités, c'est de bosser.
Ouais.
Et je suis capable de bosser beaucoup sur une longue période de temps. Et c'est pour ça que, aussi, j'ai réussi à arriver au niveau où je suis. Mais quand je sens que je progresse plus, j'ai plus forcément l'âme et l'envie de retourner au boulot. Et c'est sûr que moi, c'est une sensation particulière et il faut pas qu'elle dure trop longtemps.
C'est comme une drogue de se sentir progresser, en fait.
Ouais, c'est ça. Et bon, mais les progrès, forcément, quand il y a des progrès, il y a des victoires. Et on aime ça. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir la motivation tous les jours de retourner au boulot. Et c'est voilà, quand je parle de cette sensation avant d'entrer sur un terrain, de stress, de motivation, un mélange de stress, motivation, envie de bien faire, c'est ça qui nous donne ensuite la force de réaliser des belles choses.
Tu as parlé d'un objectif à moyen terme. À court terme, il y a la nouvelle Coupe Davis. Toi qui as gagné la vraie, tu t'attends à quoi avec ce nouveau format ? Si jamais tu la joues, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose déjà que tu aimerais jouer ?
Alors, pour être tout à fait honnête, je suis moins emballé par le nouveau format, même si je pense que ça va être un format qui va marcher, parce que c'est sur une semaine à un endroit que les joueurs seront motivés, et que forcément, ça va être une très belle compétition. Après, moi, j'ai encore mal au cœur de savoir que ce qu'on a vécu avec les gars et avec toute l'équipe en Coupe Davis en France, on ne le revivra plus vraiment. À part si on est amené à jouer finalement un tour qualificatif pour cette compétition. Ce côté, on se retrouve quasiment tous les trois mois pour jouer à l'extérieur ou à domicile dans des ambiances qui sont forcément différentes de ce qu'on ressent tout au long du circuit, parce que soit c'est souvent un public acquis à la cause de l'adversaire, soit à l'inverse, quand on joue à domicile, un public qui vous soutient, qui est là pour nous, ça me rend un petit peu triste. Après, moi, c'est une sélection, c'est la France, il est hors de question aujourd'hui que je refuse de venir jouer pour la France. Donc j'espère que je ferai partie de ce groupe et j'espère que je vivrai cette nouvelle compétition. Après, je pense que ça sera plus facile de répondre à ce genre de questions quand on l'aura vécu.
Un petit mot sur tes contemporains. Il y a une autre question moi, que je pose à tous mes invités. Ça concerne les trois monstres, comme ça que je les appelle, Federer, Nadal, Djokovic. Qui tu vois finir devant en termes de nombre de grands chelems, toi? C'est la question en ce moment.
Je pense personnellement que ce qu'a réalisé Roger, c'est monstrueux.
Ouais.
Mais qu'aujourd'hui, ils sont quand même très très proches les deux autres.
Ben Nadal, on ne peut pas être plus proche.
Nadal, on ne peut pas être plus proche. Et plus ça avance, plus on est sur le circuit, plus on les retrouve, voilà, quasiment à chaque fois en demi-finale. Et quand il y a le malheur d'en avoir qu'un seul en demi, c'est souvent lui qui gagne.
Ouais.
Donc forcément, on se pose un peu des questions. Je pense que Djokovic a vraiment les cartes en main pour faire exploser, voilà, ce chiffre, ouais. On va dire, ou ce record.
Ce nombre.
Rafa, voilà, personnellement, je sais pas qui va le battre à Roland l'année prochaine. Il va falloir que je m'entraîne un peu mieux sur la fin de saison, mais ça va pas être facile. Mais donc c'est un vrai casse-tête. Tout ce que je sais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces trois champions, c'est pas un grand chelem qui va les différencier. C'est pas parce qu'il y en a un qui va avoir un grand chelem de plus ou que ce sera le plus grand de tous les temps, quoi. Ce qui est certain, c'est que voilà, ces trois-là, c'est juste irréel ce qui se passe. On vit dans une ère où, enfin, on joue au tennis dans une ère où on a trois extraterrestres, quoi. Vraiment trois extraterrestres qui explosent tous les compteurs au niveau des records et voilà, et c'est impressionnant.
C'est ma question d'après. C'est fatigant un peu de les avoir, de les jouer.
C'est à la fois fatigant et à la fois on se rend compte de la chance qu'on a de jouer avec eux, quoi. Alors la chance qu'on a, pas au niveau de titre en Grand Chelem, mais on se rend compte de la chance qu'on a parce qu'il y a une vraie effervescence, il y a un public, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que c'est extra special, ils vont dire les Américains, mais qu'il y a un truc en plus, quoi.
Et dis-moi, ça fait quoi?
Ça fait quoi de les jouer?
Non, d'avoir battu Daniil Medvedev cette année.
Ah, d'avoir battu Daniil Medvedev. Ouais,
ça doit être un sentiment un peu particulier quand même, parce que quand on voit l'été qui fait, et ça continue.
Ouais, alors je sais pas comment le prendre, parce que d'un autre côté je l'ai battu, mais j'ai fait l'opposé de sa tournée américaine, donc est-ce qu'il faut que je me remette un petit peu en question?
T'aurais préféré avoir fait, je pense, effectivement, les résultats.
Non, mais ça a été... Non, mais c'est une vraie fierté pour le coup, parce que c'était une époque où il jouait plutôt bien.
Ouais.
Il sortait alors qu'il avait quasiment pas gagné un match sur terre dans sa carrière.
Exact.
Il avait fait finale à Monte Carlo et finale à Barcelone. Je pense qu'il avait des objectifs extrêmement élevés sur ce Roland Garros. Et c'est sûr que pour moi, c'était ma première victoire aussi en étant mené 2-7-0 sur ce court 18 qui est un court mythique.
Ouais.
Donc avec une ambiance de dingue, on a l'impression vraiment que les gens sont avec toi sur le terrain, quoi. Donc et ce côté, ce côté public, ce côté ambiance de dingue, c'est quelque chose encore que j'ai vécu à ce moment-là. Et j'ai réussi à transformer toute l'énergie qu'ils m'ont donnée en énergie positive. Ça se termine par une victoire. Alors que je suis mené 2-7-0 contre un joueur qui aujourd'hui est quatrième mondial.
Ouais.
Et enchaîne les victoires, vient de gagner encore à Saint-Pétersbourg.
Bien sûr.
Donc forcément, c'est une grande fierté d'avoir réussi à le battre. Après, j'espère que j'arriverai à le rejouer et à lui poser encore des problèmes.
On sent que c'est vachement important pour toi, ce côté, ce rapport avec le public. Je veux pas trahir un secret, mais tu es aussi un joueur de guitare. On sent une part d'artistique en toi, même dans ta façon de jouer, dans ta façon d'appréhender un peu la vie, quand on te connaît un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire pour ton tennis?
Je sais pas si je suis forcément, il y a peut-être un côté artistique en moi, mais je pense que je suis surtout un gros sensible. Alors, malheureusement. pour être joueur de tennis.
C'était ma question d'après, c'est important l'amour pour un joueur de tennis, donc t'es en train d'y répondre.
Je suis un gros sensible, je pense.
Ok.
Et c'est pas forcément la plus grande des qualités pour être un joueur de tennis, parce que justement, il faut arriver à mettre de côté un petit peu toutes ces émotions pour arriver sur le terrain et être un tueur. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé aussi, mais c'est peut-être aussi cette sensibilité, ce côté tu peux dire artiste qui par moment me permet de sortir des choses de moi qui sont peut-être un petit peu différentes d'un autre joueur. Et c'est vrai que je suis touché par ça, par ce côté avec le public. C'est quelque chose qui me touche au plus profond de moi-même et qui me donne des ailes, de la même manière que quand j'ai joué en Coupe Davis et que j'ai tout le banc qui est derrière moi, ça me donne des frissons, ça me donne envie de voilà, j'ai l'impression que ça me transcende, ça me pousse et ça m'aide à sortir le meilleur de moi-même.
Tu disais parfois il faut pas trop ressentir. Est-ce que c'est la même chose avec le fait de penser? Est-ce que c'est important de penser pour être joueur de tennis ou au contraire? Parce que tu es aussi un cérébral.
Oui,
c'est ça que je veux dire.
Clair. Non, je pense un peu trop, oui, effectivement. Okay. Après, ça a des bons côtés, des mauvais côtés, mais c'est sûr que faut arriver à lâcher prise, que ce soit dans la vie en général ou sur un cours de tennis. Et c'est certain que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je sais que ce côté lâcher prise aussi, ma compagne m'a beaucoup aidé aussi sur ce côté-là. Et ouais, il faut à un moment, voilà, faut arrêter de réfléchir, quoi. Faut kiffer la vie, faut en profiter. À un moment, t'es sur le terrain, il y a plus de réflexion, quoi. C'est t'y vas, tu fonces, t'as un objectif, et voilà, tu réfléchiras après, quoi. Et c'est certain que c'est pas forcément quelque chose de naturel, mais j'essaie de un petit peu le travailler et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus naturel.
Le joueur de tennis est un fou de détails. Quelles sont les choses qui t'échappent encore? Il essaye de tout contrôler, le joueur de tennis, mais est-ce qu'il y a encore des choses, voilà, où t'arrives pas justement à les contrôler?
Bah, dans ma vie de joueur de tennis.
Dans ta vie de joueur de tennis, dans la façon d'aborder, je sais pas, des matchs, des adversaires, et même ta vie en général, c'est à quel moment que, voilà, tu laisses échapper les choses, quoi?
Moi, là où je comprends pas tout, et forcément, je peux pas tout comprendre, parce que je pense qu'on peut pas tout comprendre. C'est ce côté de l'impact de la tête sur le corps, l'impact de je me rends compte finalement que la tronche, elle joue un rôle tellement important dans une carrière, et que il y a des moments où on la contrôle peut-être pas forcément aussi bien qu'on voudrait, et il y a des périodes comme ça, on sait pas trop pourquoi, mais d'un coup on commence à avoir mal à cet endroit, le corps va pas bien, c'est dur de se lever le matin, mais alors qu'on a l'impression d'avoir plein de bonnes intentions, finalement, y a de la fatigue mentale, il y a de la fatigue physique, et tout ça, et souvent on peut avoir les meilleures intentions du monde et vouloir faire, ça va pas le faire parce que il y a un truc qui manque, soit dans la tronche et dans l'état d'esprit, il manque quelque chose pour que vraiment ça marche.
Tu en as dit juste quelques mots. Mais je veux quand même la poser, cette question. C'est important, l'amour, pour un joueur de tennis?
En fait, je pense que c'est primordial, vraiment. Parce que on est malheureusement sur le terrain comme on est dans la vie en général, je pense. En tout cas, moi, c'est beaucoup comme ça. Et si on n'est pas bien dans sa vie en général, ça va être difficile de vraiment être bien sur un terrain. Alors, on peut y arriver, hein, mais je pense que sur une période longue, ça peut poser des problèmes. Et c'est vrai que l'amour est hyper important, et c'est vrai que j'ai énormément de chance avec ma famille, mais j'ai aussi beaucoup de chance depuis 5 ans d'avoir rencontré quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie de nomade, dans ma vie un petit peu spéciale où on n'a pas forcément de point d'accroche, et c'est vrai que grâce à elle, ma vie est quand même plus belle, on va dire. C'est certain que j'ai la chance de d'être accompagné par Julia au quotidien sur le circuit et ça m'aide à voilà, ça m'aide à être épanoui dans ma vie et à être heureux sur un terrain de tennis.
Ça me paraît bien, moi, pour finir cette belle note. Merci Pierre Hugerberg de nous avoir reçus chez toi à Mittelhausbergen.
C'est bien, tu le prononces bien, bien, c'est hein? Pas mal. Ouais.
La
en allemand, ça fait Mittelhausbergen.
Voilà, la maison au milieu de la montagne, je trouve ça très joli. Ça pourrait être un titre de chanson Francis Cabrel. Je te remercie pour ton temps et ta sincérité. Rétablis-toi bien et bonne fin de saison.
Merci beaucoup Antoine.
Un parcours familial, atypique. Un individu qui puise sa force dans le collectif, qui est poussé quand il ne joue pas que pour sa gueule. On était bien dans le village de la maison au milieu de la montagne. Les champions sont fascinants et quand on connaît leur histoire, ils le sont encore plus. À bientôt dans Échange et d'ici là, prenez soin de vous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.